Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je dois dire que je suis un tout petit peu impressionné. Il y a quelque chose dans le problème de l'individu qui est un petit peu gênant dès le départ, c'est que chacun d'entre nous est généralement favorable au fait d'être lui-même un individu et un peu plus hostile au fait que les autres le soient. Donc, en général, on est très heureux d'être un individu et on accuse les autres d'être individualistes. Et l'affaire est un peu réglée. En réalité, je crois que nous avons des attitudes très ambiguës à l'égard de l'individu, et je voudrais essayer un peu de débroussailler le problème en commençant par une affirmation au fond extrêmement banale, c'est que l'histoire de la modernité est identifiée par la totalité de la pensée sociale comme le triomphe de l'individu. Je veux dire que une manière de raconter l'histoire de la modernité, c'est de dire nous passons de sociétés dans lesquelles l'individu a peu de place à des sociétés dans lesquelles l'individu est tout, ou est, comme le disait Durkheim, justement, le dieu et le fidèle de la religion de l'individu. C'est pas très compliqué de comprendre cette histoire. Quand on s'interroge, par exemple, sur l'histoire du roman, bien l'histoire du roman, c'est d'abord des histoires d'amour, qui raconte comment des individus affirment l'autonomie de leurs sentiments contre l'obligation sociale. Les romans racontent toujours l'histoire de Tristan et Isolde. Voilà. C'est toujours la même histoire. Je suis un individu contre la société. L'histoire de la philosophie est en général, en tout cas c'est comme ça qu'on l'aperçoit, l'affirmation de l'autonomie du jugement individuel, de la raison individuelle contre les obligations, les habitudes, les contraintes, les routines, etc. L'histoire de l'art a longtemps été décrite comme l'histoire d'une représentation qui passait de la peinture de Dieu hiératique à la peinture du visage humain et même à la peinture de l'émotion de celui qui peint le visage humain. C'est ce qu'on appelle la peinture abstraite, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'obligation de représenter les autres. Et puis nous sommes en général attachés à l'idée démocratique selon laquelle l'ordre social, la vie sociale est fondée sur les accords, les discussions, les conflits, les régulations des individus. C'est-à-dire que si ça ne sont plus les dieux qui organisent la vie sociale, il faut bien qu'on se débrouille. Et ce sont les individus qui organisent la vie sociale. Ce qui fait d'ailleurs que, de mon point de vue, la critique de l'individualisme, de l'individu, se situe dans l'individualisme. D'une certaine manière, c'est comme la critique de la démocratie. Elle est acceptable tant qu'on dit, au nom de la démocratie, je condamne les magouilles, TF1, la bêtise ambiante, les manipulations. Il y a des critiques de la démocratie qui sont pas... qui n'ont pas pour horizon la démocratie. Il y a des critiques de la démocratie qui détestent la démocratie parce qu'elle est démocratie. Et je critiquerai l'individualisme, mais dans l'horizon de l'individualisme, de la même manière, c'est-à-dire en disant que quand même c'est au nom de l'individualisme que l'on peut critiquer le fait que nos sociétés ne permettent pas véritablement à cet individu de s'épanouir. Donc je me situe d'emblée dans une critique endogène, pour parler comme ça, et pas du point de vue de principe qui nierait l'existence et le droit des individus. Alors, il y a aujourd'hui de discussions, de grands débats, c'est assez récurrent, au fond, dans toutes les périodes de troubles sociaux, où il y a une inquiétude à l'égard de l'individu. Et quand il y a une inquiétude à l'égard de l'individu, on dit que c'est l'individualisme. Donc, j'utiliserai indifféremment le mot individu, le mot individualisme pour sortir de cette sorte de piège qui consiste à dire l'individu est bon, l'individualisme est mal. Bon, ça, on va réserver ça pour la disserte de philo du bac, mais on va bien comprendre qu'il s'agit en réalité des deux choses. Alors pourquoi y a-t-il cette inquiétude? Parce que de toute évidence, on observe aujourd'hui un transfert de charges, un déplacement de certaines charges, de certains problèmes, de certaines contraintes sur les individus. Nous sommes incontestablement dans une phase historique où il y a une accentuation du déplacement des contraintes sociales sur les individus. D'abord, il y a un déplacement par la liberté de choix qui est offerte. Je voudrais rappeler que la liberté de choix dans la consommation n'est pas rien. Longtemps, les gens ont eu le choix entre bouffer des patates ou bouffer des patates. Bon. Maintenant, on peut choisir la qualité de ses pâtes, ses fringues, sa voiture, etc., etc. Et donc, on en appelle un individu qui doit choisir. C'est un peu dérisoire, mais dans les sociétés où on ne consomme pas, je vous assure que les gens voudraient bien être des individus qui choisissent. Et puis, nous avons des libertés de choix dans des domaines où ce n'était pas pensable. Par exemple, nous avons des libertés de choix religieuses. Au fond, dans l'essentiel de l'histoire de l'humanité, cette question est absurde. On ne choisit pas. Or, nous pouvons choisir de croire, de ne pas croire, de croire comme ci, de croire comme ça, de changer. Donc, nous avons des choix qui n'appartiennent qu'à nous. On a même aujourd'hui des libertés de choix qui concernent des domaines inenvisageables. On peut choisir sa sexualité. Imaginez ce que pouvait représenter une affirmation de ce type dans la France d'il y a 50 ans. C'était complètement monstrueux. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas imaginer ce genre d'affaires. Il y a même des gens qui choisissent, il n'y en a pas beaucoup, mais de changer de sexe. Est-ce qu'un choix, c'est pas un choix? En tout cas, c'est une question qui peut se poser. Et nous savons très bien que demain, nous aurons des techniques de contrôle qui fait que on pourra à peu près choisir ses enfants. En tout cas, aujourd'hui, quand on fait des enfants, on choisit déjà la naissance. Les maternités sont pleines en mai, juin, parce que c'est bon pour les congés maladie qui prolongent sur les grandes vacances, et il n'y a plus personne dans les maternités en hiver. Ça veut dire qu'on choisit dans des domaines où jusque-là, les dieux, c'est une autre manière de définir la biologie, faisaient les affaires. Alors évidemment, cette liberté-là fait que l'individu est particulièrement exposé et qu'il y a toute une critique qui se met en place et qui est très vieille, une très vieille critique, sur le fait que les individus réels ne sont pas dignes de l'individu théorique. C'est les critiques du narcissisme. Et cette critique du narcissisme est très forte. Je ne voudrais pas donner à cette conférence une tonalité politique, mais nous avons eu récemment un homme politique français qui a tellement exposé sa vie privée que ça lui est retombé dessus. Sur le mode, il faut quand même de temps en temps être un individu représentatif, incarnant quelque chose, et pas simplement dire ça colle avec Carla. Ça c'est pas bien passé. Bon, donc c'est quand même. Et puis il y a ce thème de l'angoisse, de l'incertitude, les modes de management aussi. On en sait quelque chose même dans les universités. Mobilisent sans cesse les individus. Pendant très longtemps, le management, parce que la manière nouvelle de dire l'organisation du travail a consisté à dire on va organiser le travail de façon rationnelle, donner à chacun une position dans l'organisation et chacun devra se soumettre très précisément à la position qu'il a dans l'organisation. L'image classique, c'était la grande bureaucratie ou les temps modernes de Charlie Chaplin. Bon. Aujourd'hui, tout le management consiste à dire aux gens débrouillez-vous. On vous donne des objectifs, on vous donne des moyens. C'est à vous de vous mobiliser en tant qu'individu. Et donc, on a un développement, évidemment, du stress, de l'angoisse, parce qu'on est de plus en plus d'individus. En même temps, c'est compliqué, parce que les gens ne veulent pas forcément revenir aux vieilles méthodes du travail. Mais l'individu est très projeté de ce point de vue-là. Développement de l'individualisme. Prenons l'exemple scolaire, parce qu'il y a un accroissement de la performance. Le cas de l'école est très intéressant, puisque l'école était une compétition, pendant très longtemps, limitée à certains compétiteurs. Seuls les bons et les bien-nés pouvaient jouer dans la compétition scolaire. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer dans la compétition scolaire, et la compétition scolaire s'est durcie, parce qu'il y a de plus en plus de compétiteurs. Et donc, l'individu est de plus en plus mobilisé, parce qu'il doit être dans une compétition. D'autant plus étrange d'ailleurs qu'on lui fait une double injonction. La première, c'est d'être performant en tant qu'individu. La seconde, c'est d'être bien dans sa peau. Il faut à la fois être un individu efficace, ascétique, et un individu hédoniste, épanoui. Ce qui est quand même pas si facile que ça à réaliser. La promotion de l'individu aussi provoque des choses troublantes comme une exigence renforcé de contrôle de soi. Plus on est libre, plus il faut se contrôler. Quand vous n'êtes plus contrôlé par la société, vous êtes obligé de vous contrôler vous-même. Je prends un exemple très simple pour me faire comprendre. Nous sommes à la fois dans une société assez nettement pornographique, je veux dire, qui expose toutes les possibilités d'accomplissement dans ce domaine, et en même temps, nous sommes dans une société qui fait du crime sexuel le crime absolu. Et qu'est-ce que c'est que le crime sexuel? C'est le crime, c'est pas le fait de faire des choses, c'est le fait de faire des choses sans contrôler que l'autre les fait aussi librement. D'accord? Donc, vous êtes à la fois dans l'obligation de contrôle très forte, et d'autant plus forte que tout devient possible. Et puis, il y a un thème qui est très fréquent, j'évoque ici les travaux de mon collègue Ehrenberg, qui dit, aujourd'hui, les individus sont tellement stimulés qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont déprimés. Au fond, quand on n'était pas vraiment des individus, on était écrasés par la société. La société nous empêchait d'être des individus. Donc, on était névrosés. On était névrosés. On avait envie, on ne pouvait pas. Là, je pense à Doron. Je ne sais pas, Doron, t'es névrosé. Chose qu'il connaît bien. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus névrosés, ils sont déprimés. Et ils sont déprimés, pourquoi? Parce qu'ils peuvent tout faire et qu'ils n'en ont plus envie. Voilà. Et que c'est fatigant. Bon. Donc, on peut développer sans cesse, comme ça, toutes ces inquiétudes qu'il y a autour de l'individu. Et en même temps, je le répète, on ne peut pas sortir de l'épure qui est que nous sommes dans des sociétés d'individus et que l'horizon des sociétés démocratiques, j'y reviendrai, ça reste l'idéal d'une société dans laquelle les individus se dirigent eux-mêmes, tout en faisant une société, ce qui n'est pas facile. Mais au fond, je crois que la plupart d'entre nous sommes attachés à ça. Alors, l'histoire de l'individu est une histoire assez compliquée parce que, en fait, il me semble qu'il y a toujours eu un double individualisme. Si on fait un raisonnement très simple à la Louis Dumont, on peut dire, pendant très longtemps, l'individu était, comme dit Dumont, hors du monde. On était des individus parce qu'on avait un rapport à Dieu, et c'était surtout du point de vue de Dieu qu'on était un individu, du point de vue des hommes. On n'était pas des individus, on obéissait purement et simplement aux règles sociales. Et l'histoire des idées, de la modernité, des mutations religieuses, etc., c'est que cet individu hors du monde entre dans le monde, et il y entre quand on coupe la tête au roi d'Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et qu'arrivent des gens comme Hobbes, comme Locke, etc., qui disent « si l'ordre social n'est plus fixé par Dieu, si l'ordre social n'est plus le produit de la volonté des dieux, il ne peut être que le produit de la volonté des hommes. » Et l'idéal bascule vers l'idée d'une société qui serait une société dans laquelle des hommes libres et égaux, et libres parce que égaux et égaux parce que libres, décideraient de la nature de la vie sociale. Et on est maintenant dans ce cadre depuis très longtemps, et j'aimerais d'ailleurs personnellement qu'on n'en sorte pas. Alors, ce problème va se décliner selon deux grands modèles bien connus. Au fond, le premier, c'est de dire que l'individu est défini par un ensemble de droits naturels. Les droits naturels, c'est les droits, pour parler simplement, de la démocratie négative, c'est-à-dire nous possédons un certain nombre de droits qui n'appartiennent qu'à nous et sur lesquels l'État ne peut pas intervenir. La première définition de la démocratie, c'est celle-là. C'est l'État n'a pas le droit de s'occuper d'un certain nombre de choses qui n'appartiennent qu'à moi. Par exemple, ma liberté religieuse. Par exemple, mes opinions. Par exemple, mes goûts. Ça n'appartient qu'à moi tant que ça ne nuit à personne. Bon. Et l'idée, à ce moment-là, c'est de produire un individu qui serait, selon la formule kantienne, un individu autonome, c'est-à-dire un individu capable de se vivre comme la cause de sa propre action. C'est moi qui suis la cause de ma conduite. Donc on a une conception éthique, morale, de l'individu. La morale n'est plus dans le ciel, elle est dans, j'allais dire l'âme de chacun, parce qu'on ne se débarrasse pas toujours de ces genres d'histoires, mais il faut faire les hommes de façon à ce que chacun d'eux soit le maître de son action. Et puis, il y a de l'autre côté des Lumières, les Lumières plus anglaises, entre guillemets, qui disent l'ordre social vient du fait que chacun est un individu utilitariste, ce qui n'est pas un gros mot, j'y reviendrai, C'est-à-dire que chacun est capable de promouvoir ses intérêts. Et l'ordre social viendra du fait que ces intérêts s'accordant miraculeusement, grâce à la main invisible, Montesquieu aurait dit grâce au doux commerce, hein, ces intérêts s'accordant miraculeusement, chacun est un individu qui poursuit ses intérêts et ça fabrique une société harmonieuse par la main invisible du marché. Voilà les deux grandes conceptions de l'individu. L'un est plutôt porté par la morale, une morale universelle, etc. Et l'autre est plutôt porté par ses intérêts. Et au fond, on construit d'emblée le cadre de ce qui sera le principal axe du développement des sociétés occidentales, l'alliance, on verra compliquée, du capitalisme et de la démocratie. Les uns disent c'est plutôt la démocratie, les autres disent c'est plutôt le capitalisme, et évidemment, depuis deux siècles, on vit un pied dans le capitalisme et un pied dans la démocratie, et vous savez que l'essentiel de nos débats politiques, c'est comment articuler ces deux... comment articuler ces deux affaires. Donc on a ce double visage de l'individu et ça va conduire d'ailleurs à un principe de justice qui est très intéressant, ça va conduire plus exactement à la priorité du juste, c'est-à-dire que quand on est dans une société d'individus, il ne saurait y avoir d'accord sur ce qui est bien. L'État ne peut pas décider que la poésie est supérieure au football. L'État ne peut pas supposer que telle sexualité est préférable à telle autre. L'État ne peut pas décider de ce qui concerne nos conceptions du bien. En revanche, l'État doit décider de ce que sont nos conceptions du juste, c'est-à-dire nos conceptions de la répartition des biens sociaux. Donc on ne discute en général pas beaucoup de ce qui est bien et beaucoup de ce qui est juste. Et en s'appuyant sur la figure d'un sujet qui combine l'utilitarisme, mais un utilitarisme mesuré, puritain, respectable, moral, etc., et une figure morale, avec une authenticité, je fais allusion aux travaux de Charles Taylor, une authenticité, un rapport de compréhension aux autres, etc., et qui a donné le personnage qui est devenu évidemment très vite objet de caricature, mais le personnage du bourgeois. Hein, le personnage du bourgeois, c'est-à-dire c'est pas un excité passionnel comme l'étaient les aristocrates, qui étaient des individus, mais uniquement sur le mode héroïque, et ça n'est pas évidemment un abruti, entre guillemets, qui n'a que des problèmes de survie, c'est cet individu, voilà. Qui devient le symbole de la société démocratique et capitaliste et qui les combine en lui. Alors évidemment, ces conceptions-là, c'est un conte pour les petits-enfants. Ça, c'est l'histoire des idées. Dans la réalité, cette conception ou ces conceptions de l'individu ont été soumises à des critiques extrêmement fortes. La première, vous l'évoquez, c'est la critique de Tocqueville, qui dit, au fond... Si ces individus sont sur une sorte de ligne de crête de la moralité et de l'égoïsme intéressé, ça peut très vite basculer vers la fabrication de tyrannie. Et s'il n'y a pas des églises, des communautés, des institutions qui refroidissent tout ça, on va avoir des démocraties d'individus qui deviennent des tyrannies. La seconde critique, évidemment, c'est celle du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier qui dénonce immédiatement, et il n'a pas tort, le fait que tout ça, c'est une fiction. Car la fiction veut dire que, dans la société d'Ancien Régime, le pauvre se vend à son maître, et que dans la société d'individus, le pauvre vend sa force de travail à son maître. Ce qui est mieux, quand même. Ce qui est mieux. Mais évidemment, il n'aura pas été difficile de montrer, notamment à partir du cas de l'industrialisation anglaise, que les conditions du contrat sont quand même pas terribles. Et que ces gens sont dans des contrats bidons. Et le mot socialisme, je voudrais le dire, a été inventé par un Français qui s'appelle Pierre Leroux. Et Pierre Leroux dit que le socialisme, c'est la société dans laquelle tout le monde aura le droit d'être un individu. C'est-à-dire que le socialisme, ce n'est pas le contraire de l'individualisme, c'est la revendication d'une société dans laquelle, y compris les plus pauvres, les plus misérables, les plus exploités, pourront parvenir, grâce à la justice sociale, à eux aussi être des individus capables de maîtriser leur vie, alors que jusque-là, elle est dominée par la nécessité, la pauvreté, l'exploitation, etc. Alors, ce double individualisme organise la plupart de nos querelles politiques. Hein. Les uns, évidemment, sont très favorables à la liberté économique, et en général, sauf quelques intellectuels qu'on appelle des libertariens aux États-Unis, mais en général, ils sont très favorables à la liberté économique et très favorables à l'ordre moral. C'est-à-dire qu'ils font confiance à l'individu utilitariste et pas confiance à l'individu éthique. Bon, grosso modo, pour dire les choses simplement, c'est Reagan. Voilà, c'est-à-dire des curés, des flics et du marché. Voilà, pour dire les choses de manière extrêmement nuancée. Ce qui fait que c'est un drôle d'individualisme, évidemment, puisque il faut toujours trouver un principe compensateur. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a l'autre modèle, qui est le modèle de la grande défiance à l'égard du marché, et d'un grand libéralisme à l'égard des individus du point de vue moral et éthique. Au fond, on est depuis des années, c'est plutôt Jaurès qui serait dans le symbole de cette figure, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, si il faut contrôler le marché pour avoir des individus moraux, d'une certaine façon, des individus qui se conduisent, qui se maîtrisent eux-mêmes. Et on sait bien aujourd'hui que l'essentiel de la rhétorique politique est grosso modo organisé comme ça. La droite, je vais faire l'hypothèse que tout ça c'est aussi simple évidemment, la droite est favorable au marché et dénonce l'amoralisme, la délinquance, le laisser-aller, le laxisme, le déclin de l'autorité. Bon, et la gauche est hostile plutôt au marché et complètement favorable aux droits des individus. Elle est favorable au divorce, elle a été enfin, avant les autres, à la contraception, aux droits des minorités sexuelles, etc., etc. Et donc vous avez une sorte de couple. D'ailleurs, quand on y réfléchit, tant que ce couple fonctionne, c'est pas si mal, au fond. Parce que ça produit une sorte de voix bérouiste. Hein, comme ça. Ça fait qu'on avance comme ça, sans trop basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, les sociologues dont je fais partie, comme vous l'avez rappelé, sont des gens qui ont posé la question un peu différemment, parce que la question que posent les sociologues, depuis que la sociologie existe, au fond, depuis qu'elle a été fondée, on peut dire, ici, plus exactement, à Cour Pasteur, en 1890 par Durkheim, c'est quand même là que ça s'est fait. La question que posent les sociologues, ils n'ont jamais posé d'autres, c'est de dire comment peut-on imaginer de vivre dans une société qui soit une société alors qu'elle est composée d'individus libres et autonomes. C'est quand même... Autrement dit, on veut bien admettre que la société est une fourmilière. Vu de loin, ça ressemble à une fourmilière. Le problème, c'est que là, chaque fourmi décide librement de faire sa vie. Et donc, les sociologues ont été d'emblée devant ce problème et ils refusaient à la fois la réponse contre-révolutionnaire disant tout ça c'est de la folie, il faut retrouver les dieux, les monarques, les rois, les traditions, chacun à sa place, et ils refusaient évidemment la réponse libérale anglaise, si vous voulez, disant la main invisible du marché pourvoira à la création de l'équilibre. Donc, les sociologues ont cherché une solution et ils en ont trouvé une extrêmement astucieuse, je dois dire, qui est toute bête, mais qui consiste à dire que nous sommes socialisés, donc nous sommes fabriqués, de manière à intégrer en nous le social et à l'intégrer si fortement que nous faisons librement comme des individus, ce que la société exige que nous faisons objectivement. C'est le truc des sociologues. C'est pas mal. Je voulais signaler que c'est une solution très intelligente. Qui dit, d'une certaine manière, je vous parle librement, il n'y a aucune pression qui s'exerce sinon celle de dire des bêtises, je vous parle librement, mais en réalité, la société a mis en moi un programme qui fait que je vais me comporter de la manière, et je vais même désirer me comporter de la manière qui correspond aux attentes de la vie sociale. Ce qui fait que la liberté, du point de vue, épistémologique, est une fiction, bien évidemment, ça n'existe pas, mais du point de vue qui compte, c'est-à-dire du point de vue de la subjectivité des acteurs, elle est réelle. Et ça compte. C'est pas une fiction du point de vue de l'acteur. C'est-à-dire que quand je mets un veston au lieu de mettre un chemisier à fleurs, je désire véritablement mettre un veston. Il se trouve que ça convient bien au rôle que je dois occuper, c'est miraculeux, mais je suis pas obligé de le faire. Donc nous sommes socialisés pour être autonomes, et nous sommes des individus parce que nous sommes socialisés, et en même temps, plus nous sommes socialisés, plus nous avons de capacité d'action. Bourdieu aurait dit, plus nous avons le sens du jeu. C'est-à-dire, plus nous connaissons les codes, les connivences qui nous permettent d'agir de manière adaptée, libre. Il y a une très belle formule d'un sociologue américain des années 50 qui disait, la socialisation, ça consiste à donner une boussole intérieure. C'est-à-dire, vous avez une boussole intérieure, en tant qu'individu, cette boussole n'appartient qu'à vous et elle vous permet d'agir et de réagir de la manière qu'il faut, même quand les circonstances ne changent, parce qu'on vit dans des sociétés qui changent sans cesse. Et donc il faut à la fois que l'individu soit très socialisé, très stable, très bien armé intérieurement, pour agir de manière efficace dans des situations qui changent. S'il est trop raidement armé, évidemment, il a des capacités d'adaptation absolument nulles, et du point de vue darwinien, il ne peut pas s'adapter, il disparaît. Et s'il n'est pas armé, évidemment, il ne devient qu'une feuille morte, ballottée par les demandes, les exigences, les circonstances, etc. Donc, il y a l'image d'une citoyenneté, au fond, qui se fabrique, et vous voyez bien à quel point ce sont des thèmes à la fois qu'anciens, religieux, etc., que l'on retrouve là, qui consiste à dire... D'une certaine manière, c'est l'armature morale qui crée le fort intérieur. Il y a un sociologue qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Elias, qui avait développé comme ça une théorie très jolie, disant plus on est moderne, plus on est socialisé, moins on dépend du regard des autres, parce que plus on devient son propre censeur. Au fond, dans la société, quand on n'est pas dans une société d'individus, le sentiment moral par excellence, c'est la honte. On a honte du regard des autres. Quand on est un individu, le sentiment moral par excellence, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'on se fait honte à soi-même, ce qui est fortiche. C'est-à-dire qu'on devient son propre confesseur. Alors, dans le langage de la psychanalyse, on appelait ça le surmoi, l'idéal du moi. C'est-à-dire que j'ai plus besoin des autres, je suis moi-même. Celui qui, comme disait Racine, je suis maître de moi comme de l'univers. Donc, Durkheim a développé ce modèle dans le cas français, parce qu'évidemment, dans une théorie comme ça, la nature de l'ordre social est extrêmement fragile. Ça tient à peu de choses. Il suffit que la programmation de la socialisation ne marche pas, et tout se casse. Et donc, il y a une angoisse permanente de la crise, de la crise de la famille, de la crise de l'école, de la crise des institutions, et au fond, les sociologues sont des gens qui construisent ce modèle et qui ne cessent de dire qu'en réalité ça marche pas. Parce que, en réalité, les gens se suicident, les gens divorcent, les gens font n'importe quoi, ils se maîtrisent pas, c'est le bordel. Voilà, pour dire les choses. Et vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des livres de sociologie s'appellent crise 2. Crise 2, voilà. Mais parce qu'il y a l'idéal d'une sorte d'adéquation, comme ça, de l'individu et de la société. Alors c'est un thème très très important parce que, en France, par exemple, il a véritablement construit notre modèle scolaire. Je voudrais insister là-dessus. L'école républicaine française n'a pas été faite, contrairement à ce qu'on imagine, pour apprendre à lire aux petits Français, qui savaient déjà lire pour l'essentiel. Elle a été chargée de fabriquer des individus citoyens, alors que jusque-là, c'est l'Église qui fabriquait des individus catholiques. Et donc, on a eu un modèle éducatif qui a été un modèle très construit sur le thème du dressage, mais du dressage dans les deux sens du terme. Disant à l'enfant, il faut que tu oublies ta nature enfantine pour t'élever vers des valeurs et des principes universels, pour te dresser. Et le mot dressage est bien parce que ça peut permettre quelques paires de claques aussi, voilà. Pour te dresser, comme on dresse un arbre, un immeuble, pour te dresser vers les principes de rationalité, de raison, de mesure, de vertu, qui font que tu seras véritablement un individu. Et il y a un modèle qui a été très fort en France, enfin, si on en parle, c'est que je pense qu'il a eu ce poids parce qu'il a repris le modèle catholique pour en faire un modèle républicain, d'une certaine manière. Et ce qui fait que l'école en France reste très très particulière de ce point de vue-là. Elle n'est pas centrée sur l'expérience des élèves, elle n'est pas centrée sur les élèves comme individus. Elle considère au fond que les élèves ne sont pas des individus et qu'il faut les élever vers l'individualité. Tu seras un individu quand tu auras ton bac. Avec mention, c'est mieux. Bon, voilà, c'est ce modèle-là, avec évidemment un refus de la singularité, du corps, de l'expression, etc. Bon, je caricature à peine, mais on a eu ce modèle très très fort, disant qu'au fond, l'individu, on devait l'arracher à l'évidence des choses, à la nature des choses, aux passions, etc., pour l'élever vers ce modèle de la raison, du progrès, etc., de la maîtrise des passions, et Durkheim, pour faire toujours allusion à lui, disait d'ailleurs que l'instituteur, contrairement à l'analyse de Nicolas Sarkozy, Durkheim disait que l'instituteur est l'équivalent du prêtre. Voilà. Mais, du point de vue de la raison, du point de vue du progrès de la nation, ayant l'avantage en plus non négligeable de se marier et donc de se reproduire plus efficacement que son compère. Alors, cette position, vous voyez à quel point c'est une fiction, d'une certaine manière. C'est une fiction. Enfin, je veux dire, on est dans des représentations, évidemment. On est dans des constructions sociales, pour parler comme ça. Et cette fiction a été très, très, elle aussi, très rapidement critiquée, disant que cet individualisme est un individualisme abstrait. Au fond, c'est un individualisme qui est souvent très éloigné de l'expérience que chacun peut avoir de sa singularité, de ses goûts, de ses passions, etc. En même temps, cette théorie a été critiquée aussi dans le champ de la sociologie, je vais très vite, par une sociologie qui reprend le modèle de la socialisation, c'est notamment la sociologie de Bourdieu, mais qui la désenchante. Au fond, je dirais, de ce point de vue-là, Bourdieu, c'est comme Durkheim, mais Durkheim y croit. Et Bourdieu, y croit pas. Et donc, l'individu devient une fiction, une fable. Alors, de mon point de vue, c'est pour ça que je ne suis pas de ce côté-là, de mon point de vue, ça pose une question dont on pourra éventuellement parler, c'est que ça conduit à une aporie du point de vue de la critique. C'est que, si c'est une fiction, comment moi puis-je continuer à me penser comme un individu capable d'affirmer que c'est une fiction ? Ce qui pose un problème. Tout en étant d'ailleurs, de ce point de vue-là, dans le cadre, dans l'idéal d'une société, évidemment, d'individus. Mais c'est une critique qui a beaucoup de force, et elle a eu beaucoup de force parce qu'on est dans des sociétés où les technologies de manipulation, alors ça Foucault en a beaucoup parlé, où les technologies de manipulation de l'individu sont extrêmement fortes. Et vous comprenez bien pourquoi. Plus on est dans une société d'individus, plus il faut socialiser. Il n'est pas difficile de franchir le pas disant la socialisation, ça n'est que des micro-techniques de pouvoir, de contrôle, et donc les médecins en particulier sont d'ignobles manipulateur, en donnant des normes hygiéniques, en expliquant qu'il faut arrêter de fumer, toutes ces choses absolument scandaleuses. Mais il y a évidemment des choses plus sérieuses sur le contrôle par les médicaments, les psychotropes, etc. Il y a, en face de ça, il y a aussi une autre critique de l'individualisme qui s'est développée, qui est au fond l'autre versant de ceux qui disent « revenons à l'individualisme utilitariste, rationaliste des Lumières ». C'est, dans le domaine des sciences sociales, c'est les gens qui développent dans les sciences sociales le modèle de l'homo economicus, le modèle économique. Ils disent « écoutez, tout bien compliqué, ce long échafaudage pour expliquer qu'il y a des individus avec de la morale, des intérêts, des passions, des institutions, des écoles, c'est bien compliqué. On n'a qu'à partir d'une anthropologie très simple, chacun poursuit rationnellement ses intérêts et on peut expliquer la vie sociale du point de vue de ce que on appelle des bonnes raisons rationnelles. Et donc, on dit, écoutez, la société est un marché, tout peut être analysé en ces termes et d'une certaine façon, la gestion sage, c'est celle qui permet à chacun d'accomplir les choses qui lui semblent utiles et intéressante. Bon. Et il y a un refus, au fond, du modèle individualiste classique de ce point de vue-là. Et puis, il y a des théories plus mixtes, mais ça, au fond, ça n'intéresse que les sociologues professionnels, ce sont des gens qui disent, oui, l'individu, ça existe, mais à un pur niveau d'interaction, à un niveau d'interaction entre les individus. Et aujourd'hui, au fond, beaucoup de gens vous disent l'individu, ça existe dans le face-à-face. Ça existe là. Voilà. Ça existe là parce qu'on se regarde, on se parle. Mais la société, c'est une machine qui n'a rien à voir avec les individus. Ce qui, moi, me paraît une position, on parlait, très ennuyeuse. Parce que ça consiste à dire la société est une sorte de machine objective aveugle qui marche on ne sait comment. Et de l'autre côté, il y a des expériences individuelles qui se développent dans des petites sphères. Et on est un peu dans le monde d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Altman, et qui a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Shortcuts, que je vous invite à voir, qui décrit ça. Il dit « Chacun règle ses affaires, et puis de l'autre côté, il y a des tremblements de terre, des émeutes, des grèves, mais tout ça, c'est la société, ça n'a rien à voir. » Or, évidemment, l'idée de l'individu, c'était quand même de dire que c'est une société fabriquée, produite par des individus. Alors s'il y a cette espèce de doute aujourd'hui sur l'individu, en tout cas dans les sciences sociales, c'est parce que je crois que nous vivons une profonde mutation de notre conception de l'intégration sociale. Au fond, pendant toute la phase de la modernité qui a été celle de la société industrielle, on va dire jusqu'aux années 60, pour prendre des dates commodes, l'idéal social, c'est quand même l'adéquation de l'acteur et du système autour d'une représentation politique stabilisée. On dit la bonne société est celle dont chacun est à sa place et dans laquelle chacun est bien fabriqué pour être à la place qu'il va occuper. Et l'individu est d'abord un personnage social, si je peux me permettre. Hein, c'est le médecin, l'ouvrier, Madame au foyer, Monsieur Gagnepain, tout le monde est bien à sa place. Voilà. Et au fond, l'individu dans ce modèle de l'intégration sociale, ça n'est qu'un personnage singulier. Ça n'est que la cristallisation singulière d'un personnage social. Dans cette société-là, l'idéal de justice, c'est de réduire les inégalités, j'insiste bien, de position sociale. Par exemple, si vous prenez le mouvement ouvrier jusqu'aux années 60, c'est très intéressant, et j'ai la nostalgie de cette époque, personnellement, c'est un mouvement ouvrier qui ne réclame pas massivement le droit que les enfants d'ouvriers ne soient plus ouvriers. Ce qu'il réclame, c'est que la condition ouvrière s'améliore suffisamment pour que le fait que les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour ne soit plus une injustice et un scandale. Vous ne trouvez pas dans les déclarations syndicales l'idée il faut que les enfants d'ouvriers échappent à ce destin affreux. Vous trouvez, il faut améliorer, il faut changer la société pour que ça ne soit plus un destin affreux que d'être ouvrier. Par contraste, aujourd'hui, le grand truc, c'est de dire à tous les gamins de banlieue, il faut que vous alliez à l'école pour échapper à cette condition horrible. On leur tient tout autre raisonnement, j'y reviendrai. Évidemment, c'est le modèle de l'État-providence. C'est-à-dire le modèle dans lequel le rôle de l'État-providence, c'est d'assurer les positions. C'est de faire, il y a un très grand livre là-dessus de Robert Castel, c'est de faire que chacun ait une position garantie, qu'il n'y ait plus de trous. Hein, il n'y ait plus de trous. C'est-à-dire, on travaille, on part en vacances, on est à la retraite, on touche une pension de conversion, etc., etc. On a des droits qui sont fixés sur des positions et qui dépendent de l'État. Je signale que c'est un modèle qui a été décrit par un sociologue qui s'appelle Espling Andersen et qu'il appelle très justement d'ailleurs un modèle corporatiste, parce que c'est une extension à tous du droit des corporations. Hein, le droit des corporations, c'était vous êtes dans un endroit, vous ne bougez pas, on vous protège. Et puis petit à petit, ces droits de corporation, on les a étendus à tous. Ce qui fait que vous avez remarqué d'ailleurs en France que dès que vous touchez à un de ces droits, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, les clercs de notaire, ça se passe assez mal en réalité parce que vous êtes dans un système de ce type. Et bien évidemment, une des caractéristiques d'ailleurs de ça, c'est qu'en France, on est tous définis comme des individus par rapport à l'État. C'est l'État qui nous garantit comme des individus. Et par exemple, en France, le mot communauté est un mot qui a mauvaise allure. C'est pas sympa le mot communauté en France. Dans les pays scandinaves ou dans les pays anglo-saxons, le mot communauté est un mot positif. Si vous dites en France, par exemple, l'école du quartier est au service de la communauté, il y a du vent dans les voiles. Dans d'autres pays, il va de soi qu'elle est au service de la communauté, parce qu'on privilégie les liens horizontaux. Et en France, on est un individu face à l'État. D'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un sociologue français qui a admirablement décrit ça, c'est Crozier. Quand il explique qu'en France, on déteste les relations hiérarchiques de proximité et on adore les relations hiérarchiques lointaines. Par exemple, protester contre le président de l'université, on n'aime pas parce qu'on le voit, mais protester contre le ministre, ça c'est bon. Voilà, on est dans un modèle où on est un individu face à une autorité lointaine et évidemment des gens comme Rosan Vallon nous expliqueraient que c'est la longue histoire monarchique de la France qui d'une certaine façon s'est transmise par la République. Nous sommes des sujets, des individus en étant des sujets du roi. Ça suppose ce modèle aussi un fort clivage public-privé. Nous sommes un individu, un citoyen public et un individu privé. Et par exemple, nos revendications de type culturel, c'est le grand modèle français de ce qu'on appelle le creuset français d'intégration des minorités culturelles, c'est de leur dire, vous avez le droit d'être des minorités culturelles le dimanche à la maison. Hein? Vous êtes espagnol, c'est-à-dire vous avez le droit de bouffer de la paella. Voilà. Mais à l'école, à l'usine, dans l'espace public, pas du tout. Bon, d'autres sociétés qui ne sont pas pires que la nôtre, hein, je veux dire, ça sûr, ont évidemment d'autres modèles, mais ça c'est un modèle très très fort en France, ce clivage public-privé, qui n'a pas été un modèle formidable, je le signale, pour les femmes en particulier, disant ce qui se passe à la maison, on est désolé, c'est du privé, ça ne concerne pas l'État. Et évidemment, c'est un individu qui valorise, mais c'est la société industrielle, l'ascétisme, le travail, l'effort. L'individu se grandit, au fond, quand il travaille, quand il produit. Il y a un individu prométhéen, et on sait bien, au fond, que cet individu... on a tous, beaucoup de gens ont en France la nostalgie des années 60, parce que je crois que dans les années 60, dominé par le Parti communiste, le général de Gaulle et l'Église catholique, à peu près pour un tiers chacun... cet individu-là, cet individu qui travaille, qui s'assume, il y avait un formidable accord là-dessus. On n'était pas là pour rigoler, si je peux me permettre. Ce modèle est évidemment un modèle qui n'a pas eu que des aspects agréables que je décris, mais plus il s'éloigne, plus évidemment, plus il se perd dans les brumes du passé, plus il s'auréole de toutes les nostalgies. Alors ce modèle, évidemment, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou non, ça n'est pas la question, c'est un modèle qui, malgré tout, est très fortement en crise. Il est en crise parce que nous sommes pris dans des flux, dans des mobilités, et ce monde stable, éternellement stable, au fond, que nous avions imaginé, l'est de moins en moins. Les catégories sociales sont bousculées, il y avait des paysans, il n'y en a plus, il y avait beaucoup d'ouvriers, il y en a moins, les femmes travaillaient peu, elles travaillent beaucoup, les gens se déplacent, enfin c'est très très difficile d'avoir une société qui met les individus dans la case qui leur est réservée. En même temps, les rôles sociaux éclatent. La sociologie, par exemple, de la famille a longtemps été faite sur le couple monsieur... comment il appelait, monsieur gagne-pain et madame au foyer. Bon, ben, il y a quand même beaucoup de dames qui sont à la fois gagne-pain et au foyer. Bon, ça bouge. Même si l'école n'a pas créé la mobilité sociale qu'on attendait, elle a considérablement mêlé et fait bouger les gens. Il y a aussi un trouble formidable dans les institutions de socialisation. Les machines qui fabriquent les individus sont extrêmement troublées. Alors, l'exemple le plus typique, évidemment, c'est celui de la famille. Jusque dans les années 70, on a eu le sentiment qu'il fallait à tout prix sauvegarder la famille. La famille, institution fondamentale, etc., etc. Qu'il fallait absolument la sauvegarder. Et donc, toutes les politiques sociales visaient à assurer la stabilité de la famille. Et à partir des années 70, on lâche et on dit ce qu'il faut assurer, ça n'est pas la famille, c'est la filiation. Les couples se défont. Plus on est des individus, plus on se marie par amour. Plus on se marie par amour, plus on divorce. C'est indiscutable. Non, quand on se mariait parce que son papa l'avait décidé avec le papa de l'autre, les raisons de divorcer étaient relativement faibles. Bon. Mais quand on se marie parce qu'on s'aime, évidemment, on entre dans un monde plus fragile. Et donc, on a passé, et c'est très intéressant, le droit de la famille n'est plus un droit qui vise à préserver le couple malgré tout, c'est un droit qui vise à préserver la filiation, c'est-à-dire à assurer les parcours des enfants, quelle que soit l'évolution du couple qui les a fait naître. Et donc, on a des familles décomposées, recomposées, des gens qui sont nés dans un endroit, qui vont dans un autre, etc. On a complètement changé, et bien évidemment, si vous prenez le cas de l'école, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a à l'école pas simplement des problèmes sociaux, il y a une crise de la socialisation, pour des raisons très simples. L'autorité des maîtres ne peut plus être fondée sur le fait qu'ils incarnent des principes sacrés. Je raconte toujours la même histoire, mais bon, comme elle est bonne, j'en profite. Mon instituteur m'avait dit un jour, si tu ne me respectes pas en tant qu'élève, en tant que personne, respecte ce que je représente. La phrase ne m'avait pas paru étrange. Si aujourd'hui un instituteur dit à un gamin, si tu ne me respectes pas comme personne, respecte ce que je représente, le gamin va se demander si l'instit entend des voix. Parce que, évidemment, le fait de tirer son autorité d'un principe supérieur, c'est beaucoup affaibli. Beaucoup affaibli. La culture scolaire était la seule grande culture légitime au-delà de la culture familiale, qui était par définition une culture fermée, close. Bon, aujourd'hui, évidemment, tous les gamins que l'on interroge ont le sentiment d'apprendre beaucoup plus de choses dans l'espèce de patchwork incroyable des médias, etc., qu'à l'école elle-même. La culture scolaire est devenue scolaire, tout bêtement scolaire. Donc son charme s'est très profondément épuisé. Et puis, la logique sélective s'est beaucoup renforcée, puisque, comme je disais tout à l'heure, le nombre de compétiteurs s'est accru. Donc, là aussi, et ça n'est pas qu'en France, il y a une crise de ces institutions. On pourrait, et en particulier, je pense à un thème beaucoup développé par Habermas, il y a une crise des motivations. Il y a une crise des motivations parce que quand vous êtes dans la société d'individus à la Durkheim, les motivations d'agir vous sont données par la société, Et quand vous sortez de ce cadre, c'est vous qui devez vous motiver vous-même. Moi, quand je travaillais sur les lycéens, la chose qui m'avait le plus frappé, c'est quand j'avais demandé aux lycéens, alors, qu'est-ce qui est dur au lycée? Qu'est-ce qui est pénible? Je m'attendais à ce qu'ils disent la discipline, les exercices. Non, ils avaient tous dit, ce qui est dur, c'est de se motiver. C'est de trouver l'énergie et la force de donner du sens au fait d'aller à l'école apprendre quelque chose. C'est ça qui est dur. Parce que ça n'est plus donné par le système. Il faut que chacun le prenne en soi. Il y a aussi, évidemment, un trouble dans l'État-nation. J'y reviendrai éventuellement. Je veux dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous avons vécu une longue période historique concevant la société par son unité culturelle et disant « nous progressons quand la culture nationale se développe et accroît son emprise ». Et aujourd'hui, nous sommes, de fait, que ça nous plaise ou pas, dans des sociétés pluriculturelles. La mondialisation, ça n'est pas simplement que les marchandises circulent, c'est que les hommes circulent, et qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, des minorités culturelles disent très légitimement « nous voulons être des individus citoyens de ce pays, mais pour autant, nous ne perdrons pas notre culture, notre identité ». C'est un autre modèle de nation qui met évidemment beaucoup de troubles. Il y a, pour des raisons économiques, mais pas seulement, une crise de l'État-providence, et en même temps, nous entrons dans des économies depuis très longtemps qui reposent presque plus sur la consommation que sur le travail. Et donc, on en appelle un individualiste, un individu très étrange, aujourd'hui, qui est un individu qui devrait être ascétique au travail et hédoniste dans ses loisirs. Bon, l'idéal, c'est un cadre supérieur en costume gris qui travaille comme une bête et qui, dès qu'il a quitté son boulot, s'achète un survêtement rose et donne dans des activités New Age, voyez. Voilà. Parce qu'après, il faut quand même qu'il achète tous les trucs qu'il a fabriqués. Bon. Alors que les gens de mon âge savent que dans les années 50, vous pouviez acheter une Peugeot. Dès lors qu'elle était noire, que c'était une 203 et que vous attendiez 3 ans. Voilà. Bon, donc vos choix individuels étaient quand même nettement plus contraints. Et on passerait aujourd'hui vers un modèle que j'appellerais, en empruntant le mot à Jacques Donzelot, un modèle de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les politiques sociales, l'organisation de la société, se déplacent vers l'individu. Par exemple, toutes les nouvelles politiques publiques, ne vise plus à sécuriser la place des acteurs, vise à faire que les acteurs soient actifs. Bon. Par exemple, une réforme universitaire récente a pour objectif de dire il faut développer l'activité de l'université. Elle ne dit pas je donne de nouvelles règles pour organiser différemment la justice, etc. Elle dit je vais donner du pouvoir, de l'autonomie, de l'initiative, des systèmes de contrôle, des systèmes d'évaluation, de manière à ce que les gens soient plus des individus qu'ils ne l'étaient avant. C'est ça, la philosophie générale des politiques publiques. On peut prendre le même cas, on peut prendre un cas tout à fait antagonique, mais différent, un peu de même logique, c'est le cas du RMI. Le RMI a été une révolution, pourquoi? Parce que jusque-là, on disait à un pauvre, la nation vous doit assistance parce que vous êtes victime d'une injustice sociale, et, etc. etc. Bon. Et on doit au fond de vous protéger la petite place qu'on vous a donnée. Le RMI, évidemment, ne l'a jamais fait en pratique, mais a eu comme principe, on vous aide à condition que vous vous preniez en charge, à condition que vous ayez un projet, etc., etc. Et on a toute cette rhétorique sur l'empowerment, la mobilisation. Toutes les politiques publiques disent on agit pour mettre les gens dans de l'activité. On ne régule plus, on n'organise plus les places, si vous voulez. On essaie de réguler les parcours, de stimuler les projets, les contrats. Il faut que les individus... La bonne société, c'est la société dans laquelle les individus sont de plus en plus actifs. Et c'est une image qui est très largement partagée. En termes de théorie de la justice, il y a un changement radical qui est en train de se produire. C'est qu'on ne raisonne quasiment plus, y compris à gauche. On ne raisonne quasiment plus en disant la bonne société est celle qui réduit les inégalités de position sociale. On dit la bonne société, c'est celle qui permet aux individus d'entrer dans une compétition équitable leur permettant d'accéder à toutes les positions inégales possibles. Ma formule est un peu alambiquée. Mais par exemple, elle ne consiste pas à dire je réduis l'écart de revenus entre les cadres et les ouvriers, mais je vais faire en sorte que les enfants d'ouvriers aient autant de chances que les enfants de cadres de devenir cadres. Ce qui est un modèle de justice incroyablement individualiste. Parce qu'il consiste à dire aux individus, dès lors qu'on a fait pour vous tout ce qu'on pouvait faire pour que vous ayez cette égalité des chances, nous ne sommes plus responsables de ce qui vous arrive. D'où développement de la violence, de l'aigreur, du défaitisme. C'est très violent comme modèle de justice. C'est très violent. Hein. Par exemple, quand vous prenez la revendication des femmes, je prends un risque vu la structure démographique de l'amphi, mais bon, grosso modo, vous avez eu des revendications disant il faut resserrer les positions sociales des hommes et des femmes de manière à ce qu'il y ait moins d'inégalités entre les femmes. Et puis vous avez une revendication qui est beaucoup plus forte, qui dit il faut lutter contre les discriminations, c'est-à-dire contre les obstacles qui empêchent les femmes de devenir à égalité des chances avec les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas exactement le même raisonnement. C'est pas exactement le raisonnement. Et nous avons aujourd'hui un transfert de la vieille conception, j'allais dire socialiste, de il faut réduire les inégalités de position vers l'idée il faut accélérer l'égalité des chances pour accéder à des positions inégales. Mais dès lors que les individus ont eu des chances égales d'y accéder, on leur doit plus rien. Et ça, c'est très impressionnant. Moi, j'étais, je dois dire personnellement, très marqué par ça et très choqué quand j'ai vu, après les émeutes de banlieue de 2005, la réponse unanime qui a été de dire il faut créer des filières de grandes écoles, des classes prépa dans les banlieues, etc. C'est-à-dire, on ne réduit pas la distance entre les banlieues et les centres, on donne aux gens des banlieues les mêmes, théoriquement évidemment, les mêmes chances qu'aux autres d'en sortir. Donc on n'agit plus sur la structure, on agit sur l'égalité des chances des acteurs. Ce qui posera des problèmes, l'autre système entériné des inégalités et clouer les individus à leur position et au fond porter atteinte à leur individualité, là on a une exacerbation de l'individualité qui va poser quand même de très grands problèmes. Il s'agit aussi donc de promouvoir les individus, et je ne résiste pas à vous donner, parce que la promotion des individus est bonne pour la société. Je vous donne un raisonnement que je viens de lire dans un très joli petit livre d'Esping Andersen, qui est donc ce théoricien de l'État-providence, qui vient de sortir un petit livre qui s'appelle « Trois leçons sur l'État-providence » et qui explique pourquoi il faut créer des crèches. Pourquoi il faut des crèches ? Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent « il faut créer des crèches parce que c'est bien pour les gosses ». C'est un raisonnement un peu bébête, mais ce qui ne serait pas inacceptable. Ou il faut créer des crèches parce que c'est bien pour leur éducation, je ne sais pas. L'argument, c'est de dire, si je crée des crèches, les femmes travaillent. Si les femmes travaillent, elles sont des individus plus autonomes. Elles sont plus libres. Comme elles seront plus libres, elles créeront plus de valeur. Elles paieront plus d'impôts, et je vous fais le calcul, chaque fois que vous ouvrez une crèche, vous gagnez de l'argent. Je suis pour les crèches, enfin surtout pour les gosses des autres dans les crèches, mais je suis pour les crèches. Mais voyez le raisonnement, qui est le raisonnement de tous les pays scandinaves aujourd'hui. C'est un raisonnement que je trouve excellent, je veux dire, je suis favorable à ce raisonnement, mais c'est un raisonnement qui est construit sur l'idée il faut que les individus bougent, soient actifs, se mobilisent, se prennent en charge, et ça créera ce que les théoriciens contemporains appellent du capital social, de la confiance, de l'efficacité. Et au fond, les sociétés qui ont parfaitement réussi ça sont les sociétés scandinaves, pour lesquelles nous avons une plus grande admiration. Alors, ce modèle-là pose des problèmes. Je crois Enfin, pour dire les choses d'un mot, je crois qu'on y va. Je crois qu'on y va. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'imaginer un retour en arrière et vers un arrière qui n'a de charme que parce qu'il est passé, si je peux me permettre, qui n'était pas si terrible que ça. Donc, on est devant un problème, on est devant un doux problème. Le premier, c'est que si on entre dans cette nouvelle période d'individualisme, les individus sont moins définis par leur position que par leurs épreuves et par leur parcours. Et donc le problème, ça devient d'organiser, d'assurer les épreuves et les parcours plutôt que d'assurer les positions. Alors je prends un exemple qui fait hurler en général, qui est celui évidemment des politiques scandinaves à l'égard du travail, qui consiste à dire ce que l'État-providence garantit, c'est un parcours, c'est pas une place. Voilà. C'est-à-dire, vous avez un boulot, vous perdez votre boulot, on vous paye une formation, etc., pour que vous retrouviez un boulot. On vous oblige à vous activer. On ne peut plus vous garantir la place, on vous garantit le parcours. Je signale d'ailleurs que ceux qui sont choqués par ces politiques les admettent parfaitement pour la famille. On dit pour les politiques de la famille, on va faire en sorte de garantir les parcours des enfants, qu'ils ne soient jamais abandonnés, jamais délaissés. On fait même, les travailleurs sociaux font même des formations à la parentalité, c'est quand même assez incroyable. Plus personne n'ose dire, on va obliger les couples à rester unis dans l'enfer domestique parce que c'est bon pour la nation. Bon. Donc, ce modèle, il est complètement... pris en charge. Je crois que, évidemment, ces épreuves, il faut les organiser, les multiplier, etc. On pourrait aussi penser qu'il faut multiplier les épreuves. Si vous considérez que nous avons un certain nombre d'épreuves à franchir, plus on en franchit, plus on a de chances, au fond, d'être dans un jeu sans trop de gagnants et sans trop de perdants. Or, nous sommes en France dans un modèle strictement inverse, notamment en termes de scolarité. Nous sommes un des pays, avec le Japon et la Corée, qui a les modèles de scolarité les plus rigides qui soient. C'est-à-dire, si j'ai redoublé en seconde, je le paierai dans ma scolarité ultérieure. Nous sommes convaincus, même si on ne peut pas le faire, que le diplôme à la sortie de l'école fixe l'emploi. Et donc, nous jouons très peu d'épreuves. Très peu d'épreuves. Les pays qui s'en sortent mieux sont des pays où on multiplie les épreuves. C'est-à-dire, vous pouvez rejouer. Par exemple, je peux quitter l'université, travailler, revenir, recommencer. Par exemple, il y a guère de diplômes qui sont des rentes, ce qui est le cas en France, il y a des diplômes qui sont des rentes, difficiles d'accès, mais intéressants. Et il y a des diplômes, évidemment, qui ne valent pas tripette. Une des manières de s'en sortir, c'est de dire, on recrée des épreuves post-diplôme. De manière à ce qu'on puisse rejouer. Rejouer, ça veut dire simplement, imaginez que vous faites une partie de cartes et que vous ne fassiez qu'une partie. Vous gagnez tout, vous perdez tout. Si vous faites 15 parties, vous gagnez moins, mais vous perdez moins. Et vous avez une société, au fond, plus équitable. C'est ça, les idées qui se développent et au fond que développe un philosophe de la justice américain qui s'appelle Michael Walzer. Ça pose aussi des problèmes de savoir ce qui doit être hors épreuve. Et là, je suis d'accord avec ce mot d'ordre qui est souvent utilisé de manière un peu ridicule, qui consiste à dire « telle activité n'est pas une marchandise ». Il faut bien dire ce qui est dans les épreuves et ce qui est en dehors des épreuves. Or, il y a un risque d'avoir des choses qui étaient hors épreuve et qui deviennent des épreuves. Imaginez par exemple que par exemple, on peut considérer qu'un tas d'activités appartiennent au marché. On serait peut-être choqué que les dons d'organes, les organes se vendent. C'est-à-dire que c'est le plus riche qui peut se faire greffer un rein, quoi. Voilà, ça nous poserait des problèmes. Donc il faut quand même que plus on entre dans un système comme ça, plus on soit extrêmement ferme sur ce qui est dans le jeu et ce qui n'est pas dans le jeu. Par exemple, en termes scolaires, moi je considère, mais c'est une lubie personnelle, que jusqu'au terme du collège, on ne doit pas sélectionner les élèves. Que c'est hors jeu sélectif. Bon, c'est-à-dire que je vous propose de devenir aussi analphabète que les Finlandais. disons ça. C'est-à-dire, il y a des sociétés où on dit, il y a des biens culturels qui ne sont pas mis dans des épreuves de sélection. Jusqu'à un certain moment. Bon. En France, on est en train de faire des sélections dès la grande section maternelle. Aujourd'hui, je plaisante à peine en disant ça. Si on considère qu'on entre dans une société de ce type, donc il faut imaginer des organisations de parcours qui permettent aux individus, j'ai envie de dire, de gagner, puisqu'on ne peut plus leur assurer de place aussi fortement. En même temps, il y a un dernier enjeu, rassurez-vous, je vais bientôt avoir fini, qui est que si les individus sont les acteurs de cette vie-là, il faut les armer. Si on considère que la société est vraiment fabriquée par les individus qui se mobilisent, un des grands enjeux, c'est de fabriquer des individus capables d'agir. Et ça, ça pose des questions formidables. En particulier, quelles sont les ressources des individus? Et là, on est devant un problème très important, qui est celui des ressources culturelles. L'individu de l'école républicaine est un individu parfaitement abstrait, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il n'a été concret que parce que c'était un homme qui faisait des sciences, si je peux me permettre. Les autres étaient un peu moins des individus. Mais dans une société qui n'est plus une société homogène de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on fait des cultures? Je veux dire que si je prive quelqu'un de sa culture, je lui enlève des ressources en tant qu'individu. Je suis un individu dans ma langue, dans ma culture, dans ma civilisation. C'est ce que réclament des mouvements qui fascinent beaucoup en Amérique latine, d'Indiens qui disent « nous voulons entrer dans la modernité en étant indiens ». C'est les femmes de certains pays musulmans qui disent « nous voulons devenir des sujets démocratiques modernes dans l'islam ». Et là, nous Français, on est très coincés. On pourrait s'inspirer des Canadiens, par exemple, qui eux, ont des trucs très compliqués, mais gèrent complètement ça, parce que, comme ils sont d'emblée dans des sociétés pluriculturelles, ils voient bien que l'individu doit être, ne peut pas avoir un moi abstrait. Il faut bien que ce soit un moi enraciné, qui est une authenticité. Enfin, il y a un grand philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor, qui travaille là-dessus. C'est-à-dire, c'est le grand débat aux États-Unis entre les libéraux et les communautariens. Les libéraux disent l'individu est un individu de raison abstrait qui n'a pas de moi concret. Les communautariens disent, ben oui, quand même, il a une langue, il a une culture, il a un corps. Et donc, il va bien falloir que l'on fasse entrer dans notre culture sociale et politique les différences, les singularités, les choses. C'est pas très facile. Philosophiquement, c'est plus simple. Ça veut dire que les droits collectifs des communautés sont soumis au respect du droit individuel des individus. C'est-à-dire que si je veux porter un foulard, j'ai le droit tant que je veux le porter. Si c'est une obligation qui m'est faite par ma communauté, là, on a le devoir de me préserver de la pression de la communauté. Ça veut dire qu'il va falloir indexer des règles sur des parcours des individus et pas sur des principes généraux qui sont, d'une certaine manière, des violences. Mais après tout, on voit bien, par exemple, que même si ce n'est pas ce que ça devrait être, aujourd'hui, même dans le monde hospitalier, qui était le monde quand même où la rationalité de la science avait tendance à considérer que le malade était un individu qui gênait plutôt l'accès aux soins, bon, je l'ai entendu dans les hôpitaux. Le malade est un emmerdeur, au fond. Bon. Et à l'école, on entend aussi pas mal de choses comme ça. Eh bien, on voit bien, quand même, que malgré tout, les choses changent et qu'on est capable de faire des raisonnements qui consistent à dire il n'y a pas qu'un corps et la science, il y a quelque chose qui s'appelle un individu qui doit participer à ses soins, qui a une famille, qui n'est pas comme ça, dans le vide, etc. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que il faudrait sans doute considérer que la confiance en soi est une valeur. Bon, et ça je le dis avec volupté parce que c'est vraiment un des thèmes sur lesquels nous les Français nous sommes terrifiants. Nous avons une telle conception de l'individu abstrait que nous désarmons très souvent les individus réels au nom de l'idéal de l'individu abstrait. Au fond, de la même manière que nous critiquons la France, non plus exactement, de la même manière que De Gaulle critiquait les Français au nom de la grandeur de la France, nous critiquons les individus réels au nom de la grandeur de l'individu abstrait de la République. Je vais vous donner quelques exemples. Sondage sur lequel je travaille actuellement avec les étudiants de M1. Enquête internationale passée auprès des élèves de 15 ans. Je me sens pas à l'école chez moi. Moyenne des pays de l'OCDE, 40 pays, 18%. France, 53%. Confiance dans les enseignants. Question, c'est est-ce que quand tu comprends pas, tu interroges le prof? Moyenne des pays du monde, oui, j'interroge le prof, 70%. Moyenne de la France, oui, j'interroge le prof, 15%. Sentiment d'indiscipline élevé. Moyenne de l'OCDE, 28%, moyenne de la France, 39%. De manière générale, on s'aperçoit dans des histoires comme ça que l'esprit de groupe, le goût de la compétition et la confiance dans les autres sont associés. Ce sont les écoles qui ont le plus d'esprit de groupe, qui ont aussi le plus d'esprit de compétition et qui ont le plus de confiance dans les autres. Et de l'autre côté, de l'AFC, pour parler de la technique statistique, on a un pays comme la France, le Japon ou la Corée, dans lesquels on n'a pas confiance dans les autres, pas confiance en soi, etc. Enquête récente sur les jeunes en Europe de 15-24 ans. Quel est le pays dans lequel on a le sentiment que l'avenir est le plus sombre? La France. Dans lequel on a le moins confiance dans les institutions? La France. Dans lequel, et ça me fait plaisir, on est le moins disposé à payer les retraites des vieux? La France. Et plus grave, le pays dans lequel on a le moins confiance en soi? La France. Je dis ça parce qu'il va falloir, il faut bien comprendre que si nous entrons dans ce modèle de cohésion qui est beaucoup plus centré sur les individus, il va véritablement falloir que nous ayons la capacité de nous occuper des individus et de renvoyer un certain nombre de vieilles lunes, en particulier que c'est pas bon pour l'action collective, que c'est pas bon pour les mouvements sociaux. Il y a les enquêtes admirables de Milgram qui montre que les seuls qui ne torturent pas quand les profs le demandent sont ceux qui sont véritablement des individus et que les autres sont simplement de bons élèves et qu'ils torturent quand le prof le demande. Et que, par conséquent, armer les gens, leur donner une confiance, suppose évidemment des modes éducatifs, des manières d'agir qui fait que, bon, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, nous entrons dans des sociétés d'individus, il faut l'accepter, en prendre acte, plutôt que de tourner le dos à ça. Je voudrais conclure en disant qu'il ne faut pas se faire d'illusions, le vieux combat entre le capitalisme et la démocratie ne s'éteindra pas. Il reprend aujourd'hui de nouvelles, mais les sociétés dans lesquelles on vit ont toujours été marquées par cette tension entre les deux individualismes, et je répète, cette tension est irréductible, au fond, à la conception des individus que nous avons. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le développement de l'individualisme est associé à celui de l'égalité et de la liberté. Et on ne peut pas, ça c'est vraiment des bêtises, réclamer le droit d'être de plus en plus libre et de plus en plus égaux et dire en même temps l'individualisme c'est terrible. C'est la conséquence mécanique du fait que nous avons la revendication d'être de plus en plus libres et d'être de plus en plus égaux. Ce qu'il faut admettre, puisqu'on fête aujourd'hui, cette année, un 40e anniversaire, c'est qu'il y a 40 ans, nous vivions dans l'ivresse de la libération. Maintenant, nous vivons dans l'angoisse de la liberté. Et les périodes de libération sont plus sympathiques que les périodes. Je veux dire, c'est plus agréable de conquérir sa liberté sexuelle que de l'avoir et de ne pas savoir comment en faire. Bon. Mais c'est comme ça. Je veux dire que on ne peut pas d'un côté réclamer de l'égalité et de la liberté, ou plus exactement réclamer de l'égale liberté, et déplorer le fait que ça produit des individus. Je crois que nous aurions plutôt intérêt à penser nos modèles éducatifs, nos modèles de socialisation, non pas sur la forme du clonage pour que la société, Dieu sait pourquoi, disparaisse, mais sur le fait que cette société sera d'autant plus active et vivable qu'elle sera composée d'individus qui, je le répète, ont besoin des autres. Et puis si j'avais besoin de vous convaincre, mais ça ne saurait être le cas, pour défendre l'individu, il suffit de regarder la sale tête de ses adversaires. Il y a eu des mouvements tout au long du XXe siècle qui ont détesté l'individu, qui ont fait fortune sur la haine de l'individu. C'était le stalinisme, ça a été le fascisme, dont il faut rappeler, parce qu'ils ont disparu des mémoires, que la haine de l'individu était l'individu égoïste, l'individu hédoniste, cet individu abominable, il fallait le combattre. Bien, je trouve que c'était pas bien. Aujourd'hui, les gens qui détestent l'individu sont les religions communautaristes, qui détestent l'individu. Ce sont les défenseurs des traditions qui veulent que, au nom de la solidité de la société et contre l'individualisme, chacun reste à sa place, les femmes à la leur, les étrangers à la leur, les jeunes à la leur, les gosses à la leur. C'est ça, les gens qui sont contre l'individualisme. Donc, avant de... évidemment, on peut dire qu'il y a trop de narcissisme, trop d'égoïsme, trop de n'importe quoi, bien sûr. Mais ce trop de, c'est le prix normal, j'ai envie de dire, de ce que nous souhaitons au moins pour chacun de nous, à savoir être un individu. Et cette revendication d'être un individu, longtemps, elle a été une revendication aristocratique, dont seuls les meilleurs, les plus intelligents, les mieux formés pouvaient se prévaloir. Comme nous sommes dans une société plus démocratique, il faudra accepter que des gens que nous n'aimons pas aient le droit aussi de devenir des individus. Je vous remercie de m'avoir écouté.